Donc, j'ai intitulé mon propos « Un croyant insoumis ». À la question du « qu'est-ce qu'un psychanalysant ?», thème de notre séminaire, mes premiers mots ont été orientés par la question du « qui est le psychanalysant ?» et non par le « quoi », même si je pense que j'y réponds un petit peu dans mon propos. Un croyant, c'est le premier mot qui a résonné pour moi dans sa double composante sonore prêtant à l'équivoque. Dans le trésor de la langue française qui fait référence à Kant, il y a trois degrés de la croyance, que sont l'opinion, la foi qui est associée à la conviction et la science associée quant à elle à la certitude. De cela découlent différents niveaux de croyance qui se définissent, pour l'opinion, comme l'assentiment que donne l'esprit sans réflexion personnelle et sans examen approfondi, pour la foi, l'adhésion de l'esprit qui, sans être entièrement rationnel, exclut le doute et comporte une part de conviction personnelle, enfin, pour la science, une certitude plus ou moins grande par laquelle l'esprit admet la vérité ou la réalité de quelque chose. Le parcours de l'analyse n'amène-t-il pas à des changements de la croyance en partant de l'opinion, la croyance commune, à la foi, c'est-à-dire la conviction, pour enfin parvenir à la certitude de l'existence de l'inconscient, mais aussi à la fin de la cure, à la chute du sujet supposé savoir, marquant la chute de la croyance en l'autre et en son savoir. Ce n'est ni la curiosité intellectuelle, ni le supposé parcours nécessaire de celui qui se forme à la psychologie, ni l'envie de se faire une opinion sur la psychanalyse qui peut amener un sujet à faire une analyse. Il y a toujours un au-delà à cet énoncé. Il faut que soit apparu un désordre dans l'équilibre qui était le sien, qui l'amène à consulter un autre dont il suppose un savoir potentiel sur ses tourments et dont il veut se défaire. Cet appel à l'autre peut dans certains cas prendre la simple allure de la plainte, sans désir de changement, dans une jouissance ronronnante, ce qui ne peut amener ni à l'analyse ni à l'analysant. Quelle est donc cette croyance au départ? Tout sujet s'adressant à un thérapeute cherche la réponse du côté de l'autre, susceptible de l'aider, voire qui saurait pour lui. À cet appel, il y faut un autre qui y réponde par sa présence et par son acte. Si le sujet va chercher du côté de l'autre, c'est qu'il y a au départ cette croyance, ou du moins espérance. Comme le dit Freud en 1905 dans son article sur la psychothérapie, dont il nous dit qu'elle est la plus ancienne thérapie dont se soit servie la médecine, toute psychothérapie s'appuie sur ce principe, je le cite, de mettre les malades afin de les guérir en cet état d'attente croyante qui nous rend aujourd'hui encore les mêmes services. Mais celui qui s'oriente vers un psychanalyste, voire un psychothérapeute, non cognitiviste ni même comportementaliste, a aussi la conviction ou s'est rallié à l'opinion, la croyance commune, que l'individu est doté d'un inconscient qui peut avoir quelques incidences sur sa vie. Il faut donc qu'un symptôme qui embarrasse le sujet s'ajoute l'idée que ce symptôme fasse signe d'autre chose et qu'il peut trouver la signification de sa souffrance auprès de l'autre qui saurait le mettre sur la voie pour traduire ces signes. Cet inconscient reste cependant assez mystérieux et énigmatique, tout autant qu'inquiétant, dès lors que l'on y croit, comme peut l'être celui qui se prête à être le sujet supposé savoir pour l'analysant, qui peut craindre ses interprétations. L'analysant peut tout autant craindre de dire, car dire a des effets, que craindre les interprétations de l'analyste. Je pense là à une patiente venue pour une analyse et qui s'était montrée lors des premiers entretiens, très angoissée par le regard et la présence de l'autre, très défensive et dans le contrôle, voulant s'assurer du processus de la cure, et qui me dit un jour que si au départ elle craignait de faire un travail avec quelqu'un qui serait trop dans l'interprétation, donc mes silences la satisfaisaient, ce n'était plus le cas ce jour-là, du silence elle n'en voulait pas. Cette croyance en l'autre et en l'inconscient est l'amorce au futur travail analytique et à l'installation du transfert dont nous dit Freud qu'il est le terrain sur lequel la victoire doit être remportée. S'il ne m'est pas certain de pouvoir définir ce que serait un psychanalysant, ni même un analyste, au risque de tenter d'universaliser du particulier, et ce, quelle que soit l'orientation analytique, cependant, il est possible d'affirmer que nulle analyse, donc aucun analysant, ni aucun analyste, n'échappe au transfert. C'est le principe même de la cure. Je me suis posé la question, en fait, quand j'ai vu le thème du séminaire, si l'orientation analytique pouvait avoir une incidence sur ce que serait un analysant, et si le désir de l'analyste donc pouvait orienter une définition particulière. C'est une question que je n'ai pas davantage creusée parce que j'avais mes deux signifiants clés, un croyant, un soumis, et donc j'ai laissé la question en suspens et laissé mes lectures. Je m'étais mise un projet en tête qui était de relire les cas de Freud. Je me suis plutôt rabattue là sur mon intervention sur ce qui a été publié sous le titre La technique psychanalytique. Donc il y a une série d'articles et l'ouvrage L'analyse finie et construction dans l'analyse. Voilà, ce sont les deux grands ouvrages de référence auxquels je m'appuie là. Alors, l'analyser insoumis, en un mot, du laborantin. Dans nombre de ses articles, Freud a recours aux comparaisons par intérêt pédagogique pour étayer son propos et rendre plus accessibles ses découvertes. Le psychanalyste est tour à tour comparé soit au détective, au chirurgien, à l'archéologue ou au chimiste. Ainsi, par analogie à ce dernier, la psychanalyse serait le laboratoire du psychanalyste qualifié de médecin analysant, dont le travail s'apparenterait à celui du chimiste. Freud se fait pédagogue de sa technique auprès de ses lecteurs ou de son auditoire, au même titre qu'il semble l'être avec son patient. Nous lui enseignons, nous dit-il, comment comprendre la composition de ses formations animiques hautement compliquées, ramenant les symptômes aux motions pulsionnelles qui les motivent et qui étaient jusque-là inconnues du malade, tout comme le chimiste extrait la substance fondamentale, l'élément chimique de ce sel dans lequel il était devenu méconnaissable par sa liaison à d'autres éléments. On voit qu'avec Freud, c'est le médecin, le psychanalyste qui est l'analysant. Nous avons analysé le malade, nous dit-il, c'est-à-dire démonté son activité animique en ses constituants élémentaires, faisant voir en lui ses éléments pulsionnels pris un à un isolément. Le psychanalyste apparaît comme celui qui est à la tâche, celle de rendre conscient le refoulé et de mettre à découvert les résistances. Mais Freud précise qu'il n'est pas du ressort de l'analyste de faire une synthèse de l'analyse à son analysé. En 1937, Freud différencie la tâche de l'analyste, qui consiste à deviner plus exactement à construire ce qui a été oublié, refoulé, de celle de l'analysé, qui est dans ce travail de remémoration, dont l'activité doit être facilitée par l'application de l'association libre. Ces deux tâches différenciées constituent pour Freud les deux scènes sur lesquelles se fonde le travail analytique, qui est composé de deux règles. Celle de l'analyser, qui est de se soumettre à la règle fondamentale, raconter sans critique ni sélection tout ce qui lui vient à l'idée, et la règle du médecin, la fameuse attention flottante, qui consiste à écouter sans se soucier de savoir si l'on porte ou non attention à quelque chose. Mais l'on voit que le patient demeure pour Freud, jusqu'à la fin de sa transmission, un sujet analysé par son médecin analysant, formé à la psychanalyse. Pourquoi Freud nous dit que le transfert, c'est sur ce terrain que doit être remportée la victoire ? C'est que l'analyste, comme le patient, mène un combat contre la résistance. Ce qui peut donner le sentiment à certains de ne pas faire leur travail d'analysant ou de douter de faire réellement une analyse. Dans les différents textes regroupés sous le titre « La technique psychanalytique », Freud met en avant les différentes formes de résistance à la cure dues à une lutte entre les instances du « moi » et du « ça », soit entre le « moi » et la libido, et il s'emploie dans ces différents textes à détailler les critères d'entrée en analyse comme les critères d'exclusion. Si pendant un temps le transfert représente le ressort le plus puissant du travail, pour autant qu'il est précédé d'un signe positif et qu'il revêt le médecin d'une autorité, le transfert se transpose en foi accordée à ce que le médecin communique et conçoit. Il est cependant aussi le plus puissant agent de la résistance et pas seulement lorsqu'il se transforme en transfert négatif. Freud témoigne que tout patient se montre à certains moments insoumis au contrat analytique en ne respectant plus la règle fondamentale. Voire il arrive un temps où l'analyste devient un étranger qui le place devant des demandes abusives et désagréables. Et c'est ce contre quoi l'analyste comme le patient ont à lutter. On sait que Lacan, s'il ne remet pas en question la résistance dans l'analyse, place celle-ci davantage du côté de l'analyste que de l'analysant. Avec Lacan, c'est l'analyste qui, dans son acte, n'opère pas, se refuse à l'acte et laisse l'endormissement de la cure. Avec Freud, le transfert a deux faces. D'un côté, il soutient le travail de remémoration, et de l'autre, il se fait résistance à la cure via la répétition. Dans son article sur la dynamique du transfert, il explicite le déroulement logique de la résistance en trois temps. Elle apparaît d'abord par l'arrêt des associations, à savoir le rejet de la règle fondamentale, suivi d'une discontinuité du dit du sujet qui transfère ses émotions pulsionnelles sur la personne du médecin, ce qui l'amène à la répétition du complexe pathogène issu de l'enfance. Cette croyance en l'autre, il me semble qu'elle n'est autre que celle par laquelle l'enfant s'est constitué en entrant dans la chaîne signifiante, par le transitivisme maternel interprétant ses besoins en désir. Freud perçoit dans le transfert le continuum logique de cette croyance initiale. La foi répète l'histoire de sa propre genèse, nous dit-il. Elle est un rejeton de l'amour et en un premier temps, elle n'a pas eu besoin d'arguments. Dès l'origine, le petit sujet croit en l'autre et en son savoir. Dans la clinique infantile, il est fréquent de voir l'enfant se tourner vers le parent qui l'accompagne en attendant que celui-ci réponde à sa place à une question qui lui est adressée. « C'est maman qui dit, c'est maman qui sait », répond-il le plus souvent comme parade à son « je ne veux pas savoir ». L'analysant, insoumis, en deux mots, aux lois du signifiant. Lacan introduit pour la première fois le terme de psychanalysant dans sa proposition d'octobre 67, afin d'introduire une nuance avec le psychanalysé, nommé comme tel par anticipation. C'est au moment où il parle de la fin de l'analyse qu'il substitue au signifiant « analysé », impliquant justement une fin, un passé, voire même un passif, analysé par, analysé de, comme nous l'avons vu avec Freud, à celui d'analysant, à savoir celui qui est en analyse avec, et qui surtout introduit la notion d'une activité toujours en cours. Dire « le psychanalysé » laisse sur l'achèvement de la chose. C'est plutôt le contraire, puisque celui qui parle tout le temps, c'est bien le psychanalysant. Ce sur quoi Lacan veut mettre l'accent en 67 dans sa proposition sur l'analyse de l'école et dans son séminaire qui suit, intitulé « L'acte psychanalytique », c'est le moment de l'acte qu'il situe du côté de l'analyste et non du côté de l'analysant, qui lui est à la tâche. Moment de l'acte qui signe le passage éclairé de l'analysant à l'analyste, qui demeure lui-même un analysant, comme il l'indique dans « Encore ». Je reviens sur la citation. Celui qui parle tout le temps, c'est bien le psychanalysant. Pour autant, ce n'est pas l'action de parler qui spécifie ce qu'est un analysant au regard du patient en psychothérapie qui lui aussi parle. Il est dans le discours social admis que parler, ça fait du bien, ça soulage de ses maux. Autrement dit, il y a des effets bénéfiques attendus, à savoir thérapeutiques, dans le fait de dire. C'est ce que Freud découvre avec le principe de l'association libre. Dans la proposition d'octobre 67, Lacan définit la thérapeutique comme la restitution d'un état premier. Définition ni même principe qui ne peut s'appliquer à la psychanalyse, qui ne vise pas au retour d'un mythique passé homéostasique, principe même de la pulsion de mort, même si le sujet dans sa cure historise son passé. Quelques mois après, dans le séminaire sur l'acte psychanalytique, Lacan apporte une dimension supplémentaire en situant la psychothérapie sur l'axe imaginaire de son schéma L, sur le principe d'un être à l'autre, petit a, et non de l'un à l'autre, ce qui caractérise la situation analytique. Car c'est de cette place de l'autre, du symbolique, que le psychanalyste opère et qu'il peut recevoir l'investiture du transfert. Le transfert avec Lacan apparaît comme un phénomène imaginaire qui n'opère par la fonction de l'autre que comme ternaire dans la situation analytique. L'analysant est donc celui qui parle et sur qui s'éprouvent les effets de la parole. Pour autant, ces effets ne sont pas à entendre comme les effets thérapeutiques de la cure, mais ce que Lacan déplie plus loin, à savoir le sujet divisé, voilà l'acquis de l'effet de la tâche analysante. Cette division que Freud perçoit quand il développe sa deuxième topique entre le moi et le ça est pour Lacan l'effet du signifiant. Le sujet est soumis à l'aliénation signifiante, à savoir mis sous la barre du signifiant qui le représente pour un autre signifiant. Voilà ce dont il va faire l'expérience dans sa cure. Sur le chemin de son analyse, le sujet découvre son assujettissement aux signifiants majeurs sous lesquels il s'est représenté dans le champ de l'autre et qui ont fixé sa jouissance. Alors, de quoi le sujet est-il l'analysant ? Lacan nous en donne une réponse dans Encore en novembre 72, quand il dit être en position d'analysant de son « je n'en veux rien savoir ». La formule peut paraître paradoxale puisque le sujet qui vient en analyse vient avec l'idée qu'il veut savoir, qu'il veut comprendre ce qui cause ses empêchements ou ses ratages. Il se met en quête de ce qu'il croit être sa vérité, sa destinée. Ce qui le pousse à dire, c'est un vouloir donner du sens, trouver une explication à ses symptômes. Être en position de s'entend comme un équivalent à être en possibilité de, qui indique une posture n'impliquant pas une évidence qui va de soi, mais aussi qu'elle implique un choix, celui d'y être en position d'analysant et celui d'y être en position d'analyste. Il est affaire de désir. Ce que le sujet ne veut pas savoir, ne veut pas entamer, c'est sa jouissance. Telle cette patiente venue pour une analyse, tout en voulant imposer son cadre. Elle avait déjà fait une tranche et elle me dit comme ça la première rencontre en me demandant quel serait le temps des séances parce que 15 minutes c'était trop frustrant. Ensuite, au cours des séances, Elle a refusé de régler ou même de rattraper les séances manquées qui commençaient à s'inscrire dans une régularité. Je me suis aussi rendu compte au fur et à mesure que je n'avais pas de place possible dans une intervention parce que j'étais tenue bien à l'écart. Là, c'est ce travail qui m'a permis de me rendre compte de ça, parce que je l'ai vu que quelques temps, qu'en fait, ce que j'ai écrit, c'était que le dire de cette femme restait sans adresse. Ce n'était pas quelque chose qui m'était apparu, ni même en contrôle, quand j'en avais parlé, où j'évoquais un transfert qui me semblait curieux. Tandis que Freud noue le transfert à l'amour de la vérité qui exclut tout semblant et tout leurre, Lacan, en 73, définit le transfert comme de l'amour qui s'adresse au savoir. L'analysant attend le savoir de l'analyste, mais en même temps, ce savoir mis du côté de l'autre lui rappelle, dans sa cure, le savoir de l'autre primordial auquel il était assujetti et dont il veut se déprendre. Je ne sais pas pourquoi je vous ai raconté ce rêve. Je savais qu'en le disant, ce serait ce que vous me diriez. C'est comme ma mère qui a toujours su ce qui était bon pour moi. Cette patiente, contrairement à la précédente, témoigne d'un dire adressé à l'autre, supposé lui renvoyer son propre message, même si elle s'en plaint. Dans le cas précédent, la situation m'a semblé tout autre, puisque la vérité, elle la détenait. Alors si au commencement de la psychanalyse et le transfert, comme nous le dit Lacan, c'est qu'il y a au départ cette supposition de savoir qui instaure le transfert. Celui-ci n'est plus seulement résistance à la cure, il devient un signifiant de l'inconscient. C'est ce qui se lit dans l'algorithme du transfert de la proposition de 67. Il y a le signifiant du transfert, grand S, et sous la barre, donc je cite Lacan, le sujet, petit s, qui en résulte, impliquant dans la parenthèse le savoir supposé présent des signifiants dans l'inconscient. Avec cet algorithme, Lacan montre que la supposition de savoir est supposée dans l'inconscient de l'analysant et que l'analyste support du transfert est là pour permettre l'ouverture de son inconscient par son acte en jouant sur les résonances de la langue. Les moments de stagnation qui apparaissent dans la cure sont équivalents à la fermeture de l'inconscient, qui est une autre manière d'évoquer la résistance à la cure. Lorsque la stagnation apparaît, autrement dit, lorsque dans le transfert il y a arrêt des associations, ces moments révèlent pour Lacan ce qu'il en est de la relation à l'objet A, autrement dit du fantasme du sujet. Il me semble que c'est dire autrement ce que Freud a mis en avant dans la résistance du transfert qui se fait report d'émotions pulsionnelles sur la personne du médecin, puisque l'analyste étant celui qui vectorise le désir de l'analysant de cette place d'objet A. L'analysant, s'il s'adresse à l'autre supposé savoir, c'est qu'il croit en l'existence d'une vérité cachée dont il faut trouver le sens dans les manifestations de son inconscient. Il se met alors dans sa cure au service de son inconscient qui travaille pour lui. Cela en fait un sujet à l'écoute de ses rêves et autres formations de son inconscient qui peuvent prendre l'accent de vérité, voire de la voix de l'oracle, puisque son inconscient sait pour lui ce qu'il ignore. Cette croyance peut apporter bien des déconvenues et déceptions quand le sujet vient inévitablement à se heurter au réel ou bien lorsqu'il découvre la fiction de vérité de son fantasme. Telle cette patiente déçue qui me dit à l'arrêt du travail qu'elle pensait que celui-ci lui permettrait de vivre son amour épistolaire vécu pendant de longues années, comme ce qu'elle pensait être son désir inconscient insatisfait, et non de s'en détacher en apercevant le leurre de ce refuge imaginaire que cette relation comportait. Elle y croyait à cet amour, comme tout névrosé croit à son symptôme et à son fantasme. je conclus. L'analysant, incroyant en deux mots, incroyant en un mot. Ce que l'analysé de Freud et depuis avec Lacan, l'analysant découvre au long de sa cure, c'est l'incidence de l'inconscient par les effets de la règle fondamentale. D'une part, le sujet constate qu'il ne dit pas toujours ce qu'il croyait ni ce qu'il voulait dire, et de surcroît, ce qu'il pensait dire révèle un autre dit. Il fait l'expérience de la disjonction entre le sujet de l'énonciation et le sujet de l'énoncé. Qu'en est-il alors de sa croyance initiale en l'inconscient ? S'il pouvait la mettre du côté de la conviction personnelle d'être un sujet doté d'un inconscient, ayant un rôle certain dans sa vie, cette croyance prend une autre dimension dans sa cure lorsque l'inconscient lui apparaît comme une certitude. Certitude d'en avoir éprouvé les effets dans son analyse, tel un savoir acquis qui lui fait dire un jour « c'est là, ce n'est plus de la conviction », même s'il lui est difficile d'en dire autre chose. Là, je vous livre un rapide échange que j'ai eu avec Bernard en septembre, quand je lui ai fait part de mon projet dans les grandes lignes, qui passait de la croyance à l'incroyance et de l'insoumis au soumis. Bernard n'était pas d'accord avec moi, mais je pense que je m'étais mal expliquée, mais c'est que pour moi, la certitude n'était pas une affaire de croyance, mais celle d'un savoir acquis, d'un « c'est ça, ça existe », on peut en témoigner. C'est ce rapide échange qui m'a donc poussée à rechercher la définition de ce que serait la croyance, car je faisais de l'analysant à la fin de sa cure un sujet incroyant à l'inconscient, mais pas dans le sens d'un sujet qui n'y croit plus, mais dans le sens d'un sujet assuré de son existence, qui n'était pas pour moi une affaire de croyance. J'ai donc cédé et me suis soumise à la définition du trésor qui fait de la certitude une croyance. Cependant, l'incroyance insistait pour moi. Alors, ce qu'elle m'a semblé concerner au final, à la fin de l'analyse, c'est l'autre qui se trouve entamé dans son supposé savoir, supposé en savoir encore. À la fin, le sujet cesse de croire au possible en refusant sa castration. Il cesse de lutter contre. Il finit par réaliser, faire avec sa division qui fait l'acquis de sa cure, autrement dit, l'impossible à en savoir tout, quelque chose reste irréductiblement limité dans ce savoir, réalisation qui lui permet de passer de l'impuissance à l'impossible. Pour finir, alors je vous livre cette définition de Lacan qui concerne la croyance mais qui se rapporte à l'acte. Je ne l'ai pas travaillé, il faudrait que je m'y emploie, mais en même temps, elle avait une résonance particulière pour moi, donc je vous la livre telle qu'elle. Vais-je dire qu'on y croit à ce qu'on fait ? Ce serait méconnaître que la croyance, c'est toujours le semblant en acte. L'inconscient, lui, ne fait pas semblant.